Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on se retrouve du coup pour parler, oui effectivement, les dates qui vont vous être présentées. Je pense que vous avez peut-être vu ça sur tourner sur internet, de plus ou d'une autre manière. En tout cas, ça a eu lieu entre le 8 et le 10 mars, et oui, c'était effectif. C'était du coup la journée des droits des femmes 2025, et Christine va nous faire un petit zoom historique avant tout, et on attaquera du coup sur ce qui s'est passé un peu à l'échelle internationale. Et sachez, ça se passe également de près de chez vous, à Sherbrooke, il y a pas mal de choses.
Et oui, donc la Journée internationale des droits des femmes, ça vient de où, c'est pour qui, ça vient de comment, en fait, tout ça. Donc, je vais faire un petit récapitulatif de ça. Donc, ça commence au début du 20e siècle. Donc, ça a été inspiré par les mouvements ouvriers en Amérique du Nord et en Europe. Donc, la première Journée internationale des femmes aux États-Unis a été initiée par le Parti socialiste américain. Donc, c'était le 28 février 1909. Ensuite, on a, en 1910, il y a Clara Zetkin qui propose, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, l'instauration d'une journée internationale des femmes pour revendiquer leurs droits, notamment le droit de vote, parce qu'on se rappelle, dans ces années-là, une femme n'était pas considérée comme un être humain à part entière, mais plutôt comme un enfant, donc elle n'avait pas le droit de vote dans plusieurs, nulle part, en fait. Ensuite, le 19 mars 1911, c'est la première journée internationale des femmes célébrée dans plusieurs pays, donc entre autres en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suisse. Il y a eu plus d'un million de participants et participantes, surtout. Ensuite, entre les années 1910 et 1920, donc il y a eu quelques avancées du côté des droits de la femme dans ces années-là. Donc, en 1918, le droit de vote aux élections fédérales au Canada a été accordé aux femmes blanches. Donc, ça, c'est une spécification quand même importante à avoir. En 1920, le 19e amendement aux États-Unis accorde aux femmes le droit de vote. Donc, les femmes qui ne sont, je vous le rappelle, pas mentionnées dans la Constitution américaine du tout. Donc, le mot « femme » n'existe pas là, dans la Constitution. En 1929, l'affaire « Personne » au Canada reconnaît les femmes comme des personnes éligibles au Sénat.
Donc, ça, c'est, ouais, ça, je pense que c'était là où il y a eu vraiment un positionnement politique.
Oui, exactement. Donc, ça va faire presque 100 ans bientôt. Ensuite, on fait un petit avancé dans le temps là, entre les années 1940 et 1960. Mm-hmm. Donc, en 1940, on a le Québec qui accorde le droit de vote aux femmes, devenant la dernière province canadienne à le faire. Donc, habituellement, on est un petit peu plus avancé que les autres provinces, des fois, dans certaines choses, mais en 1940, on l'était un petit peu moins. Mm-hmm. En 1941, les femmes sont admises au barreau du Québec. Donc, bonjour à toutes nos avocates qui nous écoutent. En 1956, l'accès à la profession notariale au Québec. Donc, bonjour à toutes les notaires qui nous écoutent aussi. En 1956, il y a eu l'adoption de la loi sur l'égalité salariale au Canada, rendant illégale la discrimination salariale fondée par le sexe. En 1960, il y a eu le droit de vote autochtone au Canada. Donc, c'est là qu'on passe de seulement les femmes blanches aux femmes
autochtones, du coup.
Exactement. Ouais. Donc, c'est une grosse, un gros affranchissement là,
pour
les personnes.
C'est une plus grande ouverture, surtout sur une thématique ethnique.
Exactement. Donc, c'est là qu'on commence un peu à avoir de l'intersectionnalité du côté du féminisme. En 1963, il y a eu l'adoption de l'Equal Pay Act aux États-Unis, donc pour abolir les disparités salariales basées sur le sexe. Et en 64, les modifications du Code civil du Québec pour accorder aux femmes mariées, pardon, les mêmes droits juridiques que les hommes. Donc ça fait quand même pas si longtemps que ça. Quand on regarde ça, là, ça fait juste 80 ans que les femmes mariées ont les mêmes droits juridiques. Ensuite, encore plus récemment, entre 70 et 80, en 71, le droit des femmes de siéger dans les jurys au Québec. Donc, avant 71, là, le jury de vos pères là, ne comprenait pas des femmes. En 73, il y a eu l'arrêt Roe v. Wade, qu'on connaît maintenant beaucoup plus là, parce qu'il a été retiré dernièrement aux États-Unis. Mais ça légalisait l'avortement à l'échelle nationale du côté des États-Unis. En 1976, l'adoption de l'amendement Hyde aux États-Unis, donc ça interdisait l'utilisation des fonds fédéraux pour financer les avortements, sauf sous exception. Donc ça, on voit qu'il y a une petite compétition là, entre le côté un petit peu plus avancé et le côté qui veut revenir un peu plus vers la tradition. Donc on a autorisé l'arrêt Roe v. Wade qui légalise l'avortement, mais 2-3 ans plus tard, là, il y a vraiment un amendement qui interdit l'utilisation de fonds fédéraux pour ce financement-là. En 1977, il y a eu l'ONU qui officialise le 8 mars comme Journée internationale du droit des femmes. Et en 1986, la loi sur l'équité en matière d'emploi au Canada, ça vise à éliminer les obstacles limitant les opportunités pour les femmes. Ensuite, encore plus récemment, là, peut-être dans vos années de naissance un petit peu plus, donc entre 90 et 2010, en 90-91, il y a eu le projet de loi. C'est là qu'on voit en fait là, un peu que le côté un peu plus conservateur là, essaie de revenir et commence à réduire les droits des femmes. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées jusqu'à dans les années 90. Puis, depuis 90, on voit vraiment un retour en arrière un peu, là, ou une tentative plutôt. Donc, en 90-91, il y a eu le projet de loi C-43 au Canada, qui était une tentative du gouvernement Mulroney de restreindre l'avortement. Ça a été rejeté par le Sénat, donc bravo Sénat. En 2017, on a eu l'adoption du projet de loi 62 au Québec qui interdisait le port de symboles religieux pour les employés de l'État et les usagers des services publics. Et en 2019, il y a eu l'adoption de la loi 21, là, qui était le résultat là, du projet de loi. Et dans les années 2020, il faut savoir aussi, là, on associe souvent les droits de la femme avec le droit de l'avortement, surtout dans l'Occident ici, puisque les femmes sont quand même relativement vues comme l'égale de l'homme dans plusieurs cas. Là.
Mais après, il y a beaucoup de dénonciations aussi également en Occident sur des inégalités encore persistantes et présentes, ne serait-ce que sur la masse de salaire ou autre, ou augmentation de salaire.
Oui, ben c'est sûr
j'ai vu qu'il y avait eu des revendications en France qui dénonçaient le fait que par rapport aux hommes, il y a eu un écart de 500 euros d'écart de hausse des salaires. Donc, ouais, on a l'impression que le combat des droits des femmes, ça reste une bataille qui est toujours ascendante, descendante, un peu comme une structure de spirale qui peut à la fois monter ou descendre, mais on a l'impression que c'est parfois les mêmes sujets qui sont sur la table.
Souvent, c'est que c'est plusieurs facettes. Donc, quand on parle, par exemple, de l'égalité salariale, souvent dans plusieurs pays comme au Canada ou au Québec, il y a des lois qui empêche finalement les employeurs de payer moins une femme parce qu'elle est une femme. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est la disparité salariale vient au fait que quand, pour deux personnes égales, là, disons deux avocats, une femme et un homme, bien, la femme avocate, quand elle va tomber enceinte, c'est là qu'elle va prendre du recul, disons, sur le salarial parce que, bon, elle va prendre le congé de maternité, par la suite, tout ce qui est un peu le bien de l'enfant. Donc, si jamais l'école appelle parce que l'enfant est malade, c'est souvent la femme qui va qui va partir du travail, tout ça. Donc, elle va aller chercher les enfants à l'école à la fin de la journée. Donc, elle peut pas aller aux 5 à 7 de compagnie. Donc, elle peut pas jouer du coude avec les boss pour avoir des promotions, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment là, à ce moment-là, qu'on commence à voir l'écart qui s'agrandit plus, disons. Et il y a aussi, évidemment, là, tout le côté social où est-ce que bon, la charge mentale là, de la femme est toujours un peu plus grande, si on peut dire ça comme ça, dans plusieurs des cas, on parle en généralité, évidemment. Là. Donc, c'est sûr que ça devient un petit peu plus difficile à ce moment-là pour certaines femmes d'avoir des postes plus haut placés parce qu'elles sont limitées là, par ce qu'elles ont à faire aussi à la maison, des choses comme ça. Puis, il ne faut pas penser que les droits des femmes, c'est quelque chose qui est vraiment soudé et coulé dans le béton parce que même dans les années 2000, il y a eu des projets de loi comme le projet de loi C-233 au Canada qui visait à interdire l'avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus. Il y a aussi des... bon, évidemment, l'arrêt Roe v. Wade qui a été annulé, comme je parlais plus tôt. Et il y a aussi... des projets de loi qui peuvent paraître un peu pour protéger les femmes, mais qui sont un peu déviants, si je peux dire ça comme ça. Donc, en 2023, il y a eu un projet de loi C-311 au Canada qui proposait d'ajouter des circonstances aggravantes pour des crimes contre les femmes enceintes. Donc, dans un sens, oui, c'est une bonne chose parce qu'une femme enceinte, s'il y a un crime contre elle, ça devenait plus grave. Par contre, ce que ça implique aussi, c'est que le fœtus est un être humain à part entière. Donc, ça peut amener à ce moment-là une pente glissante là, sur l'avortement. Donc, ça peut être difficile à ce moment-là de garder le cap là, sur les droits des femmes là-dessus. Par rapport justement aussi, juste une petite parenthèse là, pour la Journée internationale du droit des femmes, on a le collectif Féminisciences qui va faire la projection du film documentaire « Je vous salue, salope », la misogynie au temps du numérique, réalisé par Léa Clermont-Dion et Glenn Marois, ce qui va être fait mercredi, le 12 mars, à 18h, à la petite salle du Centre culturel. L'entrée est gratuite, mais une contribution volontaire en argent comptant sur place est encouragée pour soutenir les initiatives. Donc, je vous invite à vous présenter là, pour avoir un peu une vision là, dans la vie des femmes à l'ère du numérique. Là, ça peut être un petit peu complexe, des fois, à comprendre du point de vue d'un homme.
Là, c'est vrai que c'est un sujet qui s'est complexifié et qui devient un peu plus complexe. Moi, je citerai les débats qui se font actuellement plus sur des combats et des fortes oppositions qu'il y a entre les influenceurs, influenceuses et les féministes qui trouvent à la fois qui prônent à la fois une certaine liberté du corps de la femme et également des gens qui sont un peu plus retenus à dire que ça ne devrait pas être présenté comme cela. Il y a beaucoup de complexité qui s'est basée dans les...
Avec le monde numérique.
Ouais, le monde numérique. Et aussi, même je trouve qu'il y a une thématique qui est un peu universelle, quand je dirais universelle, dans le sens où elle touche un peu tout le monde. C'est aussi les thématiques de cyberharcèlement et de discrimination globale via les réseaux médias. Sachant que X maintenant, qui était précédemment Twitter, est vraiment devenu un champ de bataille où tout est possible et tout est autorisé à être dit selon le droit de l'expression. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point certaines personnes peuvent très mal vivre ce genre de situation. Et que même, je dirais, au-delà simplement de l'affiliation média, ce qui est complexe avec les réseaux sociaux, c'est que ça peut être à la fois un outil pour la cause et aussi une arme pour les détracteurs de la cause.
Oui, ben on le voit avec l'intelligence artificielle. Ouais. Il y a eu beaucoup de deepfakes de femmes. Donc, la création d'images pornographiques par rapport à des femmes qui n'ont pas consenti à ça. Ça peut être
ça a été prôné. C'est pour ça que je parlais des influenceurs, parce que c'est des influenceurs qui prônent ça.
Oui.
Il y a des mecs qui viennent, qui me disent « Écoutez les gars, j'ai un business de fou, vous pouvez faire 1000 balles sur... comment on appelle ça
OnlyFans.
Ouais, OnlyFans. Qui disent, ouais, tu prends une mannequin, tu vas dans tel truc d'IA, tu modifies son visage, bam, tu publies.
Mais souvent, le pire, c'est que quand ils modifient pas le visage, puis ils prennent juste une personne qu'ils connaissent. Des fois, il y a eu, justement, aux États-Unis, il y a eu un projet de loi là, par rapport à l'intelligence artificielle, parce qu'il y a une fille qui était au secondaire, si je ne me trompe pas, que ses camarades de classe ont fait des images pornographiques avec sa photo à elle.
Oui, je me souviens d'avoir vu ça. Donc, ça, c'était terrible.
C'est terrible pour ces personnes-là, parce que ces images-là restent en ligne, puis c'est comme quand les personnes cherchent après ça, c'est des employeurs dans le futur qui peuvent chercher le nom de cette personne-là, puis ce qu'ils trouvent, c'est de la pornographie, que la personne n'a même pas consenti à faire ou quoi que ce soit. On est très pour le travail du sexe, mais quand c'est consentant de la personne qui le fait, justement. Là. Puis c'est aussi difficile...
En France aussi, il y a des revendications aussi qui se basent également sur le juridique. Mm-hmm. Car il y a des femmes qui jugent que certains commissariats ou certaines ambassadeurs ou représentants des forces de l'ordre ne considèrent pas et n'écoutent pas leurs plaintes sur des thématiques de viol, d'agression ou autre. Ce sont des sujets très sensibles.
C'est pas juste en France, en fait, là, c'est un peu partout.
Ma vision européenne et française, donc en France, j'ai souvent ça qui résonne.
C'est souvent ça, puis c'est souvent... Le problème, c'est que le cadre juridique puis le cadre de la police est un petit peu limité, surtout dans des situations de j'ai le mot en anglais, de harassment, là, de personnes qui d'harcèlement, merci beaucoup. Ils sont un peu limités à si la personne qui harcèle n'a pas pris action, la police ne peut pas nécessairement prendre action préventive. Donc, c'est souvent un peu la réponse que les femmes se font donner, parce que c'est souvent les femmes qui sont victimes d'harcèlement, ne veulent pas. Donc, les femmes, souvent, quand elles vont aller à la police ou elles vont aller voir les forces de l'ordre, ils vont se faire dire, quand il va avoir eu une action concrète, là, on va pouvoir agir, mais entre-temps, fais juste faire attention, mais c'est très difficile à ce moment-là. Il y a beaucoup de personnes à ce moment-là qui se retrouve à être harcelé.
Moi, je me rappelle qu'il y avait... c'était un événement qui souligne un peu ça, que j'ai vécu à l'époque. Moi, il faut savoir que je suis de banlieue de base. J'habite à Épinay, pour ceux qui connaissent. J'avais une femme qui était avec son conjoint, qui était notre voisin à cette époque. Et en fait, avec ma mère, on l'entendait tous les soirs crier et hurler parce que son conjoint l'a tabassé, l'a frappé. Ma mère allait jusqu'à l'accompagner au commissariat. Et il a fallu que, du coup, elle fasse un coma suite aux coups et violences pour que l'affaire passe sérieusement, parce que le dépôt de plainte n'avait même pas été pris. En fait, il n'y avait même pas eu de mandat de dépôt ou de mandat rogatoire qui avait été suivi suite au dépôt de plainte. Donc, pour vous dire à quel point on n'avait pas prêté attention à ça, il y a eu quelques améliorations qui ont été faites sur le sujet, mais je pense que ça ne démontre pas et ça démontre aussi... que ça, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sujet.
Exactement. Puis j'espère en fait que des causes comme la cause de Pilico en France, justement Dominique Pilico qui a fait de la. Qui a drogué sa femme en fait pendant des décennies.
C'est terrible.
Qui pendant des décennies a abusé de sa femme et a impliqué d'autres personnes, donc d'autres hommes en fait, là, des soixantaines d'hommes là, qui ont été reconnus coupables d'avoir violé cette femme-là. Donc c'est un peu changer la honte de camp, c'est ce qu'elle voulait faire. Donc on voit vraiment là, que qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire là, du côté des droits des femmes, surtout pour les maintenir là, dans, dans plusieurs situations.
Bah, en tout cas, on fera une courte puce pauble sur ce sujet, car on reviendra pour une seconde partie en parlant aussi un peu d'un retour de ce qui s'est passé un peu à l'échelle mondiale, que ce soit à Istanbul, Montréal, la France et même à côté de chez vous, à Sherbrooke. En tout cas, ça va arriver et sachez-le, faut bien payer le loyer malheureusement, mais on revient directement pour vous reparler de ça avec toujours le plus grand intérêt et considération sur ces souffrances ou même ces légitimités que les femmes doivent avoir au sein de notre société, en vue surtout des actuelles complexités des cas et des faits qui se passent actuellement autour de nous. En tout cas, courte puce pauvre et on se retrouve juste après.